Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, la météo crue encore.
Oui, dans 14 départements de l'Ouest en vigilance, dont 3 en rouge, Gironde, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire. Attention aussi au fort risque d'avalanche dans le nord des Alpes. Encore des averses aujourd'hui sur un axe sud-ouest, massif central, frontière de l'Est, avant déjà en cours d'après-midi l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse avec des pluies soutenues de la Bretagne à la Vendée. Mais de belles éclaircies quand même au nord de la Seine et près de la Méditerranée, avec du vent, beaucoup de neige en montagne sur les reliefs de l'Est. Et les températures retrouvent les normales de saison. 7 à 12 degrés au nord et 8 à 18 dans le sud.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous. 8h01.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texard. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 6 personnes recherchées ce matin après la mort du jeune nationaliste Quentin Derenque jeudi à Lyon. L'enquête a été requalifiée en meurtre. Vous entendrez dans ce journal le témoignage de son colocataire. Pas de sanctions disciplinaires pour une étudiante de la Sorbonne. Information que vous révélez RMC dès hier soir. Elle avait été exclue des étudiants juifs d'un groupe de discussion en septembre dernier. Et nous irons dans le Maine-et-Loire dans ce journal, dans déjà les pieds dans l'eau ce matin, placé en vigilance rouge au cru avec le Lot-et-Garonne et la Gironde.
Après la mort de Quentin Derenque à Lyon, l'enquête requalifiée pour homicide volontaire et violence aggravée.
Et dans cette affaire, des suspects ont été identifiés, selon nos confrères de BFM TV, soupçonnés d'avoir participé jeudi dernier au lynchage mortel de ce jeune militant tabassé par 6 individus masqués et cagoulés en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan. Précision du procureur de la République de Lyon, hier il est mort samedi des suites de ses blessures. Et ce matin, vous allez entendre les mots de son colocataire proche lui aussi de la droite identitaire. Il a accepté de parler au micro RMC de Julie Brault.
Les yeux humides, Rémi se souvient, encore incrédule, du message lui annonçant la mort de son ami.
La mort n'a jamais enfreint le seuil de mon esprit. C'était même pas possible. C'est quelque chose qui n'arrive qu'aux autres, qui n'arrive surtout pas à celui qui dort dans la chambre d'à côté de chez moi et qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il est mort lynché à mort. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. On s'est acharné sur lui jusqu'à ce qu'il meure. Et ça a été beaucoup de colère, oui, beaucoup de colère.
Quentin Derenque a été frappé à de nombreuses reprises par au moins 6 individus, selon le parquet de Lyon.
J'espère qu'ils seront arrêtés et enfermés pour très 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 longtemps.
Mais plus encore, Rémi attend aujourd'hui que les mouvements d'ultra-gauche soient démantelés, persuadés qu'ils étaient à la manœuvre.
Il faut en voir quels sont les auteurs, quels sont les partis qui retiennent cette violence en eux. Ça fait des décennies que le problème dure. Il faut mettre un coup de pied dedans et que ce soit une parenthèse honteuse qu'on refermera vite dans l'histoire de la 5e République. Voilà.
Une parenthèse qui risque pourtant, selon lui, de mener dans les prochains jours à une escalade de violence entre les groupes antifascistes et ceux de l'ultra-droite.
Et c'est dans une ambiance particulièrement tendue que la campagne municipale reprend à Lyon, un temps suspendu. Elle reprend avec des consignes de prudence et de sécurité imposées par les candidats à leurs militants. S'il y a des sionistes, on ne veut pas de vous ici. Les mots d'une étudiante de la Sorbonne qui avait exclu des étudiants juifs d'un groupe Instagram en septembre dernier. L'affaire avait provoqué une vive émotion. Une enquête interne à l'université avait été ouverte. La section disciplinaire a tranché et décidé de ne pas sanctionner l'étudiante mise en cause. C'est une information que vous nous révélez, Bérangère Bocquillon. Vous êtes chef du service société RMC et vous nous expliquez ce matin les raisons de cette décision.
Alors d'abord, cette étudiante affirme avoir exclu des personnes de ce groupe Instagram de promotion de première année d'économie, non pas à cause de leur nom à consonance juive, mais parce qu'elle suivait sur les réseaux sociaux des comptes militaires pro-israéliens, donc pour des raisons politiques. L'étudiante s'est aussi rapidement excusée quand l'affaire a commencé à faire du bruit. La section disciplinaire de Paris 1 parle d'exclusion maladroite du groupe Instagram. Et la présidente de la section m'explique que ce qui se passe sur les groupes de discussion privés ne relève pas de la responsabilité de l'université. Tous les avocats que j'ai appelés hier m'ont affirmé le contraire. Car à l'université, c'est une section disciplinaire qui prend les sanctions. Une section disciplinaire, c'est l'équivalent du conseil de discipline au lycée. Sauf que ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Cette section est composée pour moitié d'étudiants et pour moitié d'enseignants. La direction de l'université n'a pas son mot à dire. Ça fonctionne bien pour des problèmes de triche ou d'absence des élèves, mais ça n'est pas adapté aux questions de racisme ou d'antisémitisme. D'ailleurs, la Sorbonne a fait appel de la décision de sa propre section disciplinaire.
Et ça, c'est pour le volet disciplinaire, Bérangère, puisque demain, l'étudiante est appelée à comparaître devant le tribunal correctionnel pour harcèlement scolaire et provocation non publique à la haine raciale. Il est 8h05, vous écoutez RMC, la décrue sera lente et elle se poursuit aux abords de la Garonne. Elle sera de courte durée, puisque la pluie annoncée pour le reste de la semaine devrait accentuer la crue du fleuve qui a débordé depuis maintenant 6 jours. La Gironde, mais aussi le Lot et Garonne, restent en alerte maximale, rejoint hier par le Maine-et-Loire en vigilance rouge au cru. Des débordements majeurs sont attendus dans le département. On le retrouve sur place et en direct ce matin, notre correspondant dans l'Ouest, Martin Lange. Vous êtes au sud d'Angers, du côté des ponts de C, où la Loire est déjà sortie de son lit.
Oui, avec pas mal d'habitants les pieds dans l'eau ce matin. Je viens de croiser Maëlle et son mari, équipés de cuissardes, hein, vous savez, ces bottes qui montent jusqu'au torse. Ils tentaient de sortir leur chien tant bien que mal.
On prend la barque pour sortir, on met les chiens dans la barque. On dit que ça va encore monter. Alors oui, là, comme on n'a pas connu, là, on rentre un peu plus dans l'inconnu pour nous. Donc on va voir. Ce qu'il faut surtout pas, c'est les coupures d'électricité.
Là, on sera obligé d'évacuer.
Plus on s'enfonce sur l'île, plus c'est compliqué. Donc là, ils sont vraiment isolés. On a des personnes qui doivent évacuer ce matin. On va les héberger, ouais. En ville, au sec.
L'entraide entre voisins sur cette presqu'île entre la Loire et le Loué. Des veilleurs bénévoles hein, passent régulièrement s'assurer que tout va bien. Ils sont aussi en charge de la surveillance des digues. L'une d'entre elles a d'ailleurs cédé entre les Ponts de C et Saint-Jean-de-la-Croix, obligeant la préfecture à émettre un avis d'évacuation. 900 personnes sont concernées. La majorité sont restées sur place chez elles. Mais la situation ne s'améliore pas puisque la Loire continue de monter plus de 5 mètres ce matin. La mairie a activé le plan de sauvegarde communal avec notamment l'ouverture d'un centre d'hébergement dans un gymnase, même si aucun sinistré n'y a dormi cette nuit.
Martin Lange, du côté du Maine-et-Loire ce matin, en direct pour RMC, de l'eau mais aussi du vent, avec cette possible tornade qui a traversé Coussort dans le nord hier soir, pas de blessés, mais d'importants dégâts matériels. On espère du mouvement au tableau des médailles ce mardi, ce sera aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Et la France est 9e ce matin au classement des nations. Le compteur bloqué à 15 médailles. On espère le voir évoluer aujourd'hui avec un record à la clé grâce à la discipline la plus prolifique depuis le début de ces Jeux. Le biathlon. Julien Richard, vous êtes en Terselva ce matin à quelques heures d'un relais masculin avec des bleus très ambitieux qui viseront l'or cet après-midi.
Et ils n'ont jamais été aussi bien armés. Les Bleus aligneront tout à l'heure 3 médaillés individuels sur ces Jeux. Quentin Fillon maillé en or, Eric Perrault en argent et le médaillé de bronze, Émilien Jacquelin, sans détour sur les ambitions.
On va courir pour gagner, rien d'autre. C'est la gagne ou l'hôpital pour l'équipe de France. On a un collectif qui est capable de viser la médaille d'or, s'en cache pas. La clé sera surtout dans l'état d'esprit, humilité, travail, mais détermination surtout.
Et jamais les Bleus n'ont remporté hein, l'or olympique en relais, pas même la légende, le retraité Martin Fourcade.
Pour moi, ils sont favoris pour ce titre olympique. Leur dire ça, c'est pas leur mettre la pression, c'est simplement prendre en compte ce qu'ils ont déjà fait, leur expérience, leur personnalité, leur qualité.
Les Français partagent le même hôtel que les champions olympiques en titre norvégien. Hier soir, ils ont lancé ce duel France-Norvège sur une console de jeu, un match de foot. Faut-il y voir un heureux présage remporté par les Bleus.
Julien Richard, on vous retrouvera aux commentaires de ce relais 14h30 sur RMC. On suivra aussi le ski acrobatique ce soir de France en finale du Big Air. Et puis l'autre événement de la journée, c'est les barrages allés de Ligue des Champions. Ce soir, 21h, duel 100% Ligue 1 entre Monaco et le PSG qui aura à cœur de se rattraper après sa défaite à Rennes le week-end dernier. Et puis la journée sera peut-être décisive du côté de l'OM en pleine crise. Le propriétaire du club, Franck McCourt, est à Marseille aujourd'hui, une semaine après le départ de Roberto De Zerbi et 2 jours après la démission de Mehdi Benatia. Natia, cette nuit, des tags réclamant le départ du président de l'OM, Pablo Longoria, ont été découverts sur les murs du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 8h09, on va parler économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous.
Emmanuel, on en sait plus sur les habitudes de consommation des ados.
Effectivement Apolline, si vous vous demandez, comme beaucoup de parents, combien vos ados dépensent chaque mois et surtout comment ils dépensent, eh bien cette enquête...
Combien ils dépensent, on sait en général, parce que c'est quand même souvent notre argent.
Pas
pardon, hein, mais
pas
une partie.
Pas complètement.
Encore une, au début de l'adolescence.
Pas complètement, on y arrive. Pas complètement, on y arrive. Donc là, cette enquête du Teenage Lab Pixplay apporte quelques éclairages. D'abord, alors les ados, vous avez pas tort, ils sont comme leurs parents, ils sont rattrapés d'abord par les contraintes de pouvoir d'achat. Ils ont dépensé en moyenne 92 euros par mois en 2025. C'est 7 euros de moins qu'en 2024. Mais quand même, Apolline, ils dépensent un peu plus que l'argent de poche que leur donnent leurs parents, entre 50 et 80 euros pour la majorité d'entre eux par mois, parce que il y a Apolline, Les grands-parents.
Oui.
Les grands-parents, 20 à 50 euros pour un anniversaire, 50 à 100 euros à Noël, plus les petits billets bonus de temps en temps. Moi, j'avais de la chance, Apolline, quand j'étais plus jeune, j'avais un grand-père qui me donnait un petit billet et qui me disait surtout, tu dis rien à ta grand-mère. Et la grand-mère qui me donnait un petit billet et qui me disait surtout, tu dis rien à ton grand-père.
C'est comme ça qu'il est devenu économiste.
Et c'est comme ça que je suis devenu économiste, effectivement. Et puis, il y en a quand même 30 à 40% qui déclarent, surtout pour les 16-18 ans, faire un petit boulot rémunéré pour arrondir leur famille.
Les ados, ils dépensent différemment selon les régions.
Oui, alors les ados les plus dépensiers, ce sont les jeunes corses et les jeunes provençaux. 113 euros par mois pour les Corses, alors qu'on est plus radin sur la façade atlantique. Moins de 86 euros en Bretagne, en Val-de-Loire et en Normandie. Alors, pourquoi ? Ben d'abord, on retrouve le classement qu'on avait déjà cité sur combien les parents donnent d'argent de poche. Et c'était déjà les Corses et les provençaux qui étaient les parents les plus généreux. Alors, je ne me lancerai pas dans un débat sociologique sur la pseudo-radinerie ou la pseudo-générosité des Corses et des Bretons. Juste un élément objectif, il faut reconnaître que c'est en Corse et dans le Sud que le coût de la vie est le plus élevé et qu'il est plus élevé que sur la façade atlantique.
C'est donc logique. Les garçons et les filles dépensent différemment.
Oui, alors globalement, les ados, ça mange beaucoup. Hein. Ça, oui, les garçons comme les filles, puisque en gros, il y a la moitié du budget qui est consacré à ça. Supermarché, beaucoup pour l'alimentation, pas toujours très saine, et 15% du budget pour les fast-food. Mais la moitié qu'il leur reste, effectivement, ils la dépensent différemment. Vêtements, produits de beauté, téléphonie pour les filles, et donc leur marque préférée, c'est Apple, McDo, Shein, Leclerc et Action. Les garçons, eux, dépensent plutôt, alors pas trop pour les vêtements, on est clair, mais par contre, pour l'informatique et les jeux vidéo. Et là, leur marque préférée, c'est Apple, McDo, PlayStation et Google. À noter que les filles sont plus demandeuses de rallonge que les garçons. Voilà, elles ont un peu plus de mal à tenir leur budget.
Emmanuel Le Chypre,
mais c'est vrai qu'on leur donne un peu moins aussi.
Voilà,
hein.
Il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Arnaud Demange sera avec nous dans un instant. Et puis l'invité du face-à-face, notez-le, ce sera Marion Maréchal. Juste après, il y aura Nicolas Canteloup comme tous les matins et ses imitations. Face à Canteloup, tous les jours, 8h50 sur RMC. 8h12, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Arnaud Demange est là, salut Arnaud.
Bonjour et joyeux Mardi Gras. Personne n'est costumé, mais c'est Mardi Gras aujourd'hui. C'est Mardi Gras.
Les œufs et la farine.
Comme on l'appelle au Sénat, mardi. D'ailleurs, le carnaval de Nice est ouvert. Vous avez vu ça ? Et pour la première fois, une reine aussi grande que le roi était placée en ouverture de défilé. Un carnaval wokiste. Voilà, à Nice. Bravo, bravo. Très bien, les Niçois. Pourquoi pas la fête de la bière à Téhéran aussi ? Le salon de l'érotisme à Roubaix. Enfin, ceci dit, c'était un joli moment.
Maman, regarde ! Il y a un nain déguisé en suppositoire !
Non, je suis Eric Ciotti, votre grand-mère. Votez pour moi.
Et la fête a duré jusqu'à 20h45. Et après, tout le monde est parti se coucher. Bah, c'est Nice, hein, c'est des vieilles personnes. Allez, l'actu. Emmanuel Macron entame une visite officielle en Inde, car New Delhi a approuvé l'achat de 114 Rafales pour un montant de 3 250 milliards, on va pouvoir rembourser une partie de la dette, engager des médecins, des profs, des infirmières, des magistrats. Alors on me dit dans l'oreillette que c'est 3 250 milliards de roupies.
Ah,
annulez tout, annulez les embauches, on est toujours fauchés. L'Inde, c'est le pays des vaches sacrées. Après, quand on croit en la réincarnation, c'est mieux que les vaches soient sacrées. Parce que sinon, tu crois manger un steak plein de protéines ? Non, tu bouffes ta belle-mère réincarnée.
Oh,
c'est dégoûtant. C'est pour ça que c'est un goût aigre. Allez, partons en Inde. Scoop, on va en Inde retrouver Edwige Chevrillon et Emmanuel Le Chypre de BFM Business.
Envoyé spécial. Dites.
Banquière, bonjour. Et bienvenue en Inde. Alors nous sommes en direct. Nous sommes en direct de New Delhi avec Emmanuel Macron, Monsieur le Président. Que pensez-vous des Indiens ?
Écoutez, les Indiens, ils sont parfaits. Les Indiens, ils n'ont pas d'allocation chômage, pas de retraite, et ils savent faire des gosses, hein, les Indiens. On n'a pas besoin de leur envoyer des lettres. Hein. Alors que vous ne savez pas faire une levrette sans un formulaire.
Copiez-les, bande de gros assistés. Allez, madame de Malherbe, c'est pas 4 qu'il faut, hein. C'est 8 pour charbonner pour les retraites. Et vous avez vendu des rafales aux Indiens. Quelle est la puissance militaire des Indiens? Écoutez, les Indiens ont une arme redoutable, madame Chevrillon. Ils ont des soldats qui ont bu de l'eau du Gange, qui ont chopé la tourista et qui serrent la main aux ennemis. Qu'en pensez-vous, monsieur le chip?
Je crois que je suis touché. J'ai serré la main au serveur quand j'ai mangé mon curry.
Et lequel? Le curry d'agneau du petit déjeuner? Le curry de corbeau à 10h ou le curry de pneu de ce midi?
Tous. Mais vaut bien.
Attention, attention, monsieur le chip, attention à mon costume, merde! Oh là, quel beau voyage.
En France, près d'un salarié sur 3 aurait eu une relation intime au travail.
Oui, on est 5 autour de
cette table. Oh là là, mais qui?
Alors, c'est qui? C'est qui? Moi, je vote Anthony. 5 autour de la table et 12 en régie. Dans la régie, c'est atroce. Hein. Je vous conseille de ne pas toucher au bouton des consoles. Hein. Moi, j'ose plus m'approcher des micros trop près ici. On ne sait pas où ça a traîné. Bon, en vrai, ça arrive tout le temps, ces histoires. Tiens, Emmanuel et Brigitte Macron, rien qu'eux, ils travaillaient dans le même lycée quand ils se sont rencontrés. Enfin, elle travaillait en tout cas. Et le nombre de fois où Jean-Marc Morandini est tombé amoureux au travail pendant les stages. Même dans le service public, ça arrive. Tiens, Laurent Delahousse. Moment gossip. Il est tombé amoureux de son retour caméra dans les écrans. Et c'est vrai qu'il entretient une relation torride avec lui-même. Bonsoir. Bienvenue sur France 2 pour l'actualité de ce soir. Et je te vois, Laurent. Je te vois dans les écrans. Que tu es beau avec ta mèche. Non, c'est toi qui es beau, Laurent. Si j'étais une femme, je serais comme un village de Gironde. Inondé de désir. Embrasse-moi moi-même. Ah oui. Ça, c'est le bruit d'une autopelle. 3 ans de conservatoire à Pauline. C'est pour toi, Molière.
La Philippe en ont un pack le corps diplomatique français.
Oui, un diplomate français, Fabrice Edan, a échangé de nombreux mails avec Epstein à partir de 2010 et la correspondance a continué après. Donc, pendant qu'Alain Juppé était ministre des Affaires étrangères, ça ne m'étonne pas. Il le disait dans son livre. Et moi, j'aime les femmes, le corps des femmes, j'aime les soirées avec des femmes. Ça, j'en ai fait, hein, des boogie nights avec le prince Andrew et la femme du consulat de Moldavie et Patrick Sébastien qui l'a fessé avec une pelle à gâteau. On s'est régalé. Vous savez comment on appelait le ministère à l'époque?
Ah non.
Le Quai d'Orsel. C'est marrant. Oh, vous savez que je suis allé plusieurs fois acheter des bâches avec Christine Lagarde pour protéger la moquette, avoir une soirée que le avec l'ensemble du corps diplomatique brésilien, les valets de chambre de l'ambassade de Tunisie, et Gaël Perdriot, le maire de Saint-Etienne, qui filmait très sympa. Très sympa. J'extrapole. Il n'y a pas ça dans les fichiers Epstein. Pour l'instant, pour l'instant, on est à l'abri de rien du tout.
On est à l'abri
allez,
de rien
à
du
demain.
Tout. Tilly Banalou, allez, Tilly Banalou, et vous êtes bien sûr.
Détendez-vous sur RMC avec Idrac Business School, une école du réseau compétences et développement.
Dans un instant, ça se passe sur RMC et BFM TV. Mon invité dans le face-à-face, c'est Marion Maréchal, eurodéputée, présidente d'Identité Liberté. Après la mort de Quentin Derenck, la question évidemment de la violence en politique. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Marion Maréchal.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne, vous êtes présidente d'Identité Liberté. Vous publiez « Si tu te sens Le Pen », c'est aux éditions Fayard. Quentin est mort, homicide volontaire, voilà le chef d'accusation. L'enquête est ouverte, aucune interpellation au moment où l'on se parle. Est-ce que vous dites malgré tout qu'il y a une forme de complicité de l'ultra-gauche aujourd'hui, comme vous l'avez dit dimanche?
Moi, je considère que Quentin n'a pas seulement été tué par la bande de lâches qui lui ont fracassé le crâne à coups de pied et de poing dans la rue alors qu'il était par terre. Je pense qu'il a aussi été tué indirectement par un système de complaisance et de complicité. Un système de complaisance et de complicité politique, d'abord. Hein, je ne vais pas revenir sur les multiples déclarations de l'état-major et les filles Jean-Luc Mélenchon au premier chef qui ont soutenu la jeune garde. Les mouvements antifascistes se sont affichés à leur côté, ont parlé d'alliés et de liaisons même structurelles avec leur mouvement. On pourrait même d'ailleurs étendre jusqu'à, on en a moins parlé d'ailleurs les écologistes, hein. Je rappelle que Marine Tondelier elle-même avait signé une tribune pour soutenir la jeune garde.
Pour s'opposer à sa dissolution.
Qui revenait évidemment à un soutien bien sûr public. On pourrait parler aussi d'un système, disons le médiatique. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de médias, je pense à des médias d'extrême gauche comme Blast, comme Street Press ou comme Libération d'ailleurs, hein, qui sont pour moi des journaux antifa, qui défendent ces mouvances et qui sont financés d'ailleurs par l'argent public.
Vous allez jusqu'à dire que des journaux comme Libération sont complices en quelque sorte de la mort de
Quand je parle de complaisance et de complicité, excusez-moi, quand on voit la manière dont ces mouvements et la violence de ces mouvements qui n'est pas nouvelle est traitée par ces médias, financés par l'argent public quand même, oui, il y a une forme de complaisance. Allons plus loin d'ailleurs, même parlons de complaisance judiciaire, hein. Je pourrais vous citer un certain nombre d'affaires quand même où l'impunité, le laxisme ont sévi à l'égard de ces groupes et de leur violence, et même, disons-le, de complicité universitaire, quand on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de directeurs d'établissements, d'universités ou d'IEP, ont laissé leur faculté devenir de véritables ZAD d'extrême gauche, laisser ces mouvances antifascistes faire la loi de la violence et de l'intimidation. Je pourrais vous parler de Lyon 2, je pourrais vous parler même de Paris Dauphine.
Le fait que Rima Hassan soit invitée, effectivement, par une association au sein de Sciences Po Lyon, est pour vous une erreur?
Absolument. Bah, d'ailleurs, c'est pas une conférence, parce qu'a priori, elle est pas conférencière, hein. C'était un meeting politique. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à...
Ça fait beaucoup de responsables.
Ça fait beaucoup de responsables, oui, je vous l'accorde, hein, puisque de fait, on essaye de diagnostiquer aujourd'hui une montée de la violence d'extrême gauche, mais je suis désolée de vous dire que la violence d'extrême gauche, elle est continue, elle est permanente, mais elle sévit dans l'indifférence générale, malgré le fait qu'elle fait de très nombreuses victimes chaque année.
Vous dites la milice de Mélenchon et de LFI a tué.
Oui. La milice, oui, je considère que Jean-Luc Mélenchon est le chef de la milice. Faut-il que je rappelle aujourd'hui toutes les déclarations qu'il a eues, où il appelle d'ailleurs dans un meeting récent à Marseille à recourir à la violence. Il parle, je cite, de méthodes impactantes quand il dit que la jeune garde est un mouvement allié et lié, qu'il appelle ses propres mouvements à se rendre.
La jeune garde s'affirme dans une autodéfense, c'est la théorie, oui, qui parfois, disent-ils, conduit au recours à la violence.
Bien sûr. Puis-je rappeler, parmi les moultes affaires qui ont frappé la jeune garde, il y a un an de cela, Rima Hassan, encore elle d'ailleurs, fait une conférence sur, je cite, le génocide palestinien à Paris Dauphine, dans la foulée de cette conférence où d'ailleurs la jeune garde est utilisée comme service d'ordre informel par Rima Hassan.
Ce qui n'était pas le cas.
Non, ce qu'elle dément. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas le cas, et j'y reviendrai juste après si vous me le permettez, parce que je pense qu'il y a une responsabilité pénale possible de Rima Hassan dans cette affaire.
C'est-à-dire, attendez,
alors,
allez-y.
Non, mais je vais vous répondre, mais juste sur cette affaire pour rappeler quand même le type de violence. Donc, à la suite de cette conférence de Rima Hassan, 8 membres de la jeune garde ont agressé un jeune français de confession juive de 15 ans dans le métro, vraisemblablement pour des raisons antisémites.
Dans l'entre-deux-tours des législatives.
Voilà le type de profil que nous avons. Et je considère aujourd'hui qu'en effet, on parle beaucoup de responsabilité morale, et à juste titre d'ailleurs de LFI. On pourrait, me semble-t-il, l'enquête pourrait aller jusqu'à une responsabilité pénale. Parce que ce que révèle d'ailleurs, je vous parle de cette affaire, notamment vos confrères du Canard Enchaîné, quand ils parlent du fait que Rima Hassan, il y a un an de cela, a utilisé la jeune garde comme service d'ordre, ils disent que tout le monde sait, la jeune garde est évidemment utilisée comme un service d'ordre informel, et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des donneurs d'ordre, ça veut dire qu'il y a des échanges entre la France insoumise, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, on va dire, pour donner l'information sur le lieu, sur l'heure, et donc moi j'en appelle aujourd'hui aux enquêteurs qu'ils tirent le fil pour savoir si vraiment il y a eu entre LFI, Rima Hassan et ses équipes, des consignes qui ont été passées à ces groupuscules pour être présents et donc entraîner potentiellement
donc,
la mort de
vous. Donc, vous accusez Rima Hassan, LFI, Jean-Luc Mélenchon d'être des donneurs d'ordre de la jeune garde.
Je considère qu'il y a aujourd'hui, mais eux-mêmes le disent, des liens structurels, des liens d'ailleurs aussi idéologiques, hein, parce que ce sont des gens qui théorisent la violence comme un moyen
Jean-Luc,
de faire...
Jean-Luc Mélenchon parle de la jeune garde comme d'alliés. En effet, il dit que ce sont nos camarades et nos alliés.
Voilà. Donc il y a des liens structurels qui sont absolument évidents, il y a des liens idéologiques aussi, parce que ce sont des gens qui théorisent la violence comme un moyen de faire aboutir la révolution, de mettre à bas le système et donc d'imposer leur vision totalitaire. Et donc oui, je pose la question aujourd'hui aux enquêteurs, il faut se pencher sur les potentiels consignes qui ont pu être passées pour que ces gens soient présents comme ils le sont systématiquement à chaque manifestation ou intervention de LFI.
Cette association, ce groupuscule a été dissous, même si il y a un recours devant le Conseil d'État. Est-ce que vous estimez que tous les groupuscules, pour le coup d'ultra-droite comme d'ultra-gauche, doivent être aujourd'hui dissous?
J'ai envie de vous dire, en fait, je refuse de rentrer dans cette rhétorique pour une raison simple.
Pourquoi ?
C'est que je considère que s'il peut y avoir bien sûr des groupuscules d'extrême droite, en fait, statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche.
Mais il y a des morts, vous le savez.
Non, mais elle est dérisoire. Je veux dire, ça n'existe pas statistiquement.
La seule question-là,
notamment les membres de LFI, disent qu'il y a eu 12 morts. Alors évidemment,
des chiffres qui sortent de nulle
part. Depuis combien
Enfin, il y a eu Clément Méli.
Excusez-moi.
Vous le savez.
Des morts qui ne sortent de nulle part.
Des chiffres
par un skinhead.
Non, excusez-moi. Vous ne pouvez pas dire que c'est dérisoire.
Non, mais moi, je regarde quand même la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'il y a eu, ne serait-ce que cette année, des dizaines. Écoutez-moi bien, des dizaines de responsables de la cocarde de l'UNI, syndicat de droite, qui se sont fait casser la gueule dans les facultés. Donnez-moi un seul responsable de l'UNEF ou un seul syndicaliste de gauche qui se soit fait casser la gueule par des militants d'extrême droite.
Mais ça n'existe pas. Pas.
C'est dérisoire quand il y a eu des morts.
Je vous dis, c'est statistiquement dérisoire. La violence d'extrême droite dans notre pays n'existe pas. La seule violence qui est structurelle, massive, systématique.
Mais vous ne niez pas, Marion Maréchal, qu'il y a eu des morts.
Mais je ne sais même pas, en l'occurrence,
d'ultra-droite.
Je ne sais même pas d'où sortent les chiffres de la France insoumise qui ne sont jamais challengés.
Parlons de Clément Méric.
Oui, mais Clément Méric, absolument, il y a eu Clément Méric. Est-ce qu'il y a une comparaison possible avec Quentin? Excusez-moi, non.
Clément Méric est-il mort sous les coups d'un homme qui était membre de l'ultra-droite?
Il est mort par accident après avoir déclenché une bagarre. Évidemment, bien sûr qu'il n'est pas mort par accident.
Mais ce que je veux vous dire, la condamnation après avoir longtemps dit que c'était par accident, c'est-à-dire en réalité, il n'y a pas eu d'homicide volontaire.
Parce qu'il serait tombé.
On parle d'homicide volontaire sur Quentin.
En effet, mais on ne peut pas dire que c'est un accident.
C'est
pas un homicide volontaire.
Excusez-moi, ce n'est pas un homicide volontaire.
C'est un homicide involontaire. C'est donc, il n'y avait pas une intention de donner la mort.
Ça n'est pas un accident.
Et en effet, tout le monde. Non mais excusez-moi, je suis pas en train de relativiser la mort de Clément Méric.
Moi je comprends pas. Ça n'enlève rien à la mort de Quentin que de dire s'il y a eu aussi des morts.
Je vais vous dire pourquoi. Si, parce que c'est une manière de relativiser la gravité de la violence d'extrême gauche.
C'est que vous-même vous relativisez
par rapport aujourd'hui à ce que pourrait représenter la violence de l'extrême droite. Une fois de plus, je vais le dire, puisque si je devais y avoir le moindre doute, moi je combats la violence politique, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, j'en ai moi-même été victime. J'ai une école à Lyon, vous savez, qui s'appelle l'ICEP, qui a été à de multiples reprises dégradée, attaquée, incendiée par de la mouvance antifa sans que jamais personne ne soit inquiété ou condamné. Je vais pas vous dire que je défends la violence politique, évidemment. Mais ce que je veux vous dire quand même, c'est que cette manière, on va dire, de dire la violence des extrêmes, de manière, on va dire, indifférenciée, sans considérer qu'il y a aujourd'hui une menace qui est plus aiguë, plus présente, plus structurelle, qui est celle de l'extrême gauche. Si, je suis désolée, c'est une manière de relativiser. Ça n'enlève rien au fait qu'il puisse y avoir des violences de l'autre côté, mais elles sont, oui,
statistiquement. Je voudrais d'abord préciser ce que je disais sur Clément Méric. Ce qui a provoqué, ce qui a entraîné la mort de Clément Méric, c'est le coup, ça n'est pas ensuite la chute sur le poteau. C'est là-dessus que je voulais être très précise. Par ailleurs, vous dites plus. Mais au fond, vous êtes dans le plus, le moins, mais les groupuscules d'ultra-droite doivent-ils eux aussi être dissous?
Mais s'il y a des violences qui sont avérées, moi j'ai pas de débat avec ça. Ce que je suis en train de vous dire simplement, c'est que ne relativisons pas la gravité de la violence d'extrême gauche, qui est une violence quasi systématique. Je veux dire, dimanche, imaginez quand même Apolline de Malherbe. Moi dimanche, donc j'étais à la manifestation d'hommage à Quentin.
Tout à fait.
Il y avait à mes côtés une députée qui s'appelle Anan Mansouri, députée UDR. Cette députée, avant d'être députée, elle était représentante de l'UNI. Elle était adhérente à LR. Elle était syndicaliste de droite. C'est une jeune femme, vous l'avez compris. Elle s'est fait casser la gueule par des antifas. Elle avait une vidéo, elle avait le visage en sang. Vous savez ce qu'ils ont eu, ces coupables, ces criminels? Eh bien, ils ont été condamnés à des travaux d'intérêt généraux. Voilà. Donc oui, je suis désolée de vous dire qu'il y a une complaisance. Et expliquer aujourd'hui que finalement la violence d'extrême gauche, elle est pas tellement plus importante que la violence d'ultra-droite, ça n'est pas vrai. Voilà, ça n'est pas relativiser la violence des autres, ça veut simplement dire regarder la réalité.
Je vous pose la question également de la dissolution de ces groupes d'ultra-droite. Vous avez à vos côtés Philippe Vardon, qui est désormais le délégué général de votre parti. Il a été le cofondateur de ce qu'on appelait à l'époque le bloc identitaire, qui a été dissous en 2021.
Je vous le dis, pour le coup, dissous, selon moi, pour des raisons totalement infondées par Gérald Darmanin, parce qu'en l'occurrence, les jeunes identitaires n'ont jamais agressé des gens, n'ont jamais frappé des gens, n'ont jamais encore moins tué des gens. C'était des jeunes qui luttaient par de l'activisme visible, finalement, contre la politique d'immigration. Et c'est d'ailleurs en cela que je condamne parfois les parallèles,
opposés à la dissolution du bloc identitaire.
J'étais contre, évidemment, la dissolution des identitaires, parce que là, en l'occurrence, c'était...
Marine Le Pen appelle à la dissolution des groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche.
Mais on met tout dans le même sac. Mais excusez-moi, là, le seul critère qui doit exister, c'est est-ce qu'il y a des appels et des passages à la violence? S'il y a appel et passage à la violence, il n'y a pas de débat. Voilà. Les identitaires, c'est encore un autre sujet. Ils ont été condamnés pour un délit d'opinion. C'est ça, la réalité. Parce qu'ils luttaient contre l'immigration, qu'ils appelaient de plus en plus de jeunes avec eux. Mais peut-on revenir quand même à l'essentiel?
Ils ont été dissous par le gouvernement en raison du
du discours de haine incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur ethnie, de leur religion,
l'immigration. Donc d'accord, voilà, parce que c'est ça en fait.
Et qu'ils avaient des caractéristiques de milice privée.
De quoi? Mais c'est totalement faux. Mais bon, ça,
c'est les mots du ministre.
Oui, oui, mais très bien. Mais Gérald Darmanin, je pense, sur cette affaire, a pas été totalement objectif et fondé. Maintenant, de quoi parle-t-on? Parce qu'une fois de plus, j'aimerais qu'on regarde la réalité.
Même dites, je condamne la violence.
Oui,
je l'entends parfaitement. Je vous demande simplement de réagir à un groupe qui a été considéré par le ministère de l'Intérieur comme ayant une manière d'être qui est groupuscule, d'ultra droite, milice, incitant
Apolline,
à la violence.
Apolline de Malherbe. Moi, regardons le paysage politique. Parce que moi, je veux bien être aujourd'hui sur le banc des acculés d'une certaine manière, mais au sein du groupe
LFI... Non, mais ça m'intéresse de voir que Marine Le Pen appelle à la dissolution de tous ces groupes.
Mais elle n'a pas parlé des
ça
identitaires, en l'occurrence. Je considère que les identitaires ne rentrent pas... Parce qu'on ne peut pas tout le mettre dans le même sac. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est où se trouve la violence politique aujourd'hui? Qui a aujourd'hui dans son groupe un député, en l'occurrence Raphaël Arnaud, qui a été condamné pour violence en réunion? Condamné, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. Ils se sont mis assis sur un gamin de 18 ans pour le déshabiller et regarder s'il avait pas de
tatouage. Le groupe dont il est le cofondateur, la Jeune Garde, a été condamné, en effet,
mais pas seulement
pour
lui.
Avoir tabassé dans le métro un jeune homme juif.
Il a été investi après sa condamnation. Est-ce qu'on peut parler de Sébastien Delogu, député LFI lui aussi, qui a lui aussi été condamné pour violence aggravée? Est-ce qu'on peut parler de Andy Kerbrat, qui lui, pour le coup, a été condamné parce qu'il a acheté député de la drogue, Bretagne. Il a acheté de la drogue à un mineur avec, son enveloppe parlementaire? Ça, aujourd'hui, c'est le paysage, le visage de LFI. Vous ne retrouverez pas d'équivalent dans le camp national. Donc, à un moment donné, regardons quand même la réalité en face, la tolérance de Jean-Luc Mélenchon pour la violence politique, qui en fait est une tolérance, disons-le, doctrinale, voilà.
Sur la question du rapport, à l'antisémitisme, le site d'Academia Christiania, qui est donc un mouvement traditionnaliste catholique dont Quentin était proche. J'ai regardé leur vidéo hier soir. Ils prônent un catholicisme intégral. D'abord, est-ce que vous connaissez ce groupe Academia Christiania et est-ce que vous en êtes proche?
Je vois qui il est. Je n'ai jamais participé à leurs événements. En revanche, je vais vous dire une chose. Je vois bien le petit narratif qui commence à monter, pas de vous d'ailleurs, Apolline de Malherbe, hein, mais qui est en fait la technique de défense de l'extrême gauche qui consiste à vouloir transformer Quentin de victime en coupable.
Ça n'est nullement mon cas.
Je comprends bien, mais vous comprenez bien
simplement que la rigueur que l'on apporte aux uns, on l'apporte aux autres et que l'on soit vraiment face à ce qui est de la violence.
Quel est le fil que vous voulez tirer en essayant d'afficher les liaisons que pouvait avoir Quentin? Moi, je vous le dis, rien ne peut justifier que ce garçon de 23 ans, avec un gazier judiciaire vierge, rappelons-le quand même, ait pu se faire fracasser le crâne à coups de pied et de poing par terre. Donc moi, je refuse de rentrer dans qui fréquentait Quentin, qui il aimait, qui il aimait pas. C'est pas le sujet. C'était un garçon de 23 ans qui était là pour protéger des militantes de droite, qui d'ailleurs, je le rappelle, on en a peu parlé, une d'entre elles a été étranglée, l'autre frappée.
Mise à terre et étranglée, ce sont les mots du procureur.
Donc moi, je ne rentrerai pas dans cette espèce de narratif de l'extrême gauche qui consiste à dire mais est-ce qu'il l'aurait pas un peu mérité, Quentin, de se faire fracasser la
tête par
terre?
Vous trouvez qu'il y a cette logique-là?
Ah oui, je considère que quand on commence à essayer d'expliquer, ah oui, mais quand même, les fréquentations de Quentin, et puis les idées de Quentin, finalement, c'était pas Jojo tout ça, et donc il aurait bien mérité de se faire fracasser la tête. Non, je suis désolée, moi, je refuse de rentrer là-dedans. Rien ne peut justifier qu'un jeune homme de 23 ans au casier judiciaire vierge, une fois de plus, qui était là de manière innocente, se meurt dans ces conditions absolument atroces.
Les choses sont dites et claires, Marion Maréchal. Pour autant, je trouve intéressant aussi de se pencher sur ces groupuscules identitaires. Et encore une fois, regardé...
C'est ça le sujet, aujourd'hui?
Non, aujourd'hui...
Pour vous, c'est pas la Jeune Garde, c'est pas la mouvance Antifa, c'est pas LFI, c'est les mouvements identitaires.
Ah bah, bien sûr que si, j'ai d'ailleurs posé...
Donc il y a un jeune homme qui est mort, tué par les Antifa, le sujet, c'est les mouvements identitaires, là?
Bah, il y a plein de sujets aujourd'hui.
Ah oui, d'accord. Bah,
écoutez, non, pour vous, il y a pas plein de sujets.
Ah bah, pour moi, c'est le sujet principal, c'est pas les mouvements identitaires.
Pour vous, il y a pas une question aujourd'hui. Ah bah, Pour vous, il y a des groupes qui appellent à la violence qui doivent évidemment être dissous. Et quand je vous pose la question de l'appartenance et même de la fondation du bloc identitaire par celui dont vous avez fait le secrétaire d'un, vous me dites ça m'intéresse.
Ce que je veux dire, non, c'est parce que je vous ai répondu d'ailleurs sur le mouvement identitaire sans aucune ambiguïté.
Vous avez dit qu'il y en avait certains qui devaient être dissous,
mais pas les autres. J'ai dit que la ligne pour moi était la violence. Je peux pas être plus clair que que ça. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que oui,
donc aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit de vous interroger sur la question
sur les groupuscules d'extrême droite, qui ils sont, ce qu'ils font, mes liens avec eux, voilà. Alors que le sujet, c'est qu'un jeune homme de 23 ans a été tué par des antifa, qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait, tout l'état-major de LFI est mouillé, toute l'extrême gauche française est mouillée. On découvre qu'à Lyon, excusez-moi,
le maire j'ai reçu écolo, ce matin un député LFI et hier, j'ai demandé absolument à tout l'organigramme d'LFI de répondre à mes questions, ce qu'ils ont refusé de faire, et je l'ai d'ailleurs
précisé. Je remets pas en cause votre travail.
Donc, en fait, je trouve qu'il est important de poser toutes les questions.
Je remets pas en cause tout votre travail.
Tout le monde.
Mais ce que je veux dire maintenant, c'est qu'il y a quand même une réalité qui est celle qu'aujourd'hui, la violence structurelle, elle vient de l'extrême gauche, qu'une fois de plus, moi, j'arrive ce matin, je lis dans la presse que le maire écolo de Lyon, son adjoint à la sécurité, travaillait de manière structurelle, là encore, avec la jeune garde. Excusez-moi. C'est ça qui devrait nous affairer toute la matinée, parce que la menace, elle est bien ici.
Pour vous, il y a une menace. Y compris des écolos.
Ah bah il y a une menace aujourd'hui dans le fait qu'il y a des liens structurels de l'ensemble de l'extrême gauche jusqu'aux écologistes avec cette mouvance antifa. Oui, de fait, c'est ce qu'on est en train de découvrir. Enfin moi je le découvre pas, excusez-moi. Mais en l'occurrence, ce qui est en train de découvrir l'opinion publique de manière massive. Voilà, et c'est pour ça que je dis que concentrons-nous, me semble-t-il, sur l'essentiel, parce que je considère que c'est justement parce qu'il y a ce relativisme.
Mais est-ce que par exemple pour vous en est arrivé à un mot
être combattu partout. J'en reviens, pardon, mais je voudrais aller au bout. J'ai donc regardé, parce que c'est important, et ça fait partie de notre travail, de regarder absolument tout. D'un côté, la jeune garde, de l'autre, effectivement, l'ensemble des groupuscules de jeunesse aujourd'hui. Sur le site d'Academia Christiania, il y a des tutos pour expliquer je voudrais vous interroger là-dessus.
Ok, mais quel rapport avec Quentin?
Aucun rapport avec Quentin. Simplement, je voudrais comprendre aujourd'hui si vous considérez, parce que lorsque l'on recherche aujourd'hui les liens avec l'antisémitisme, vous vous dites l'antisémitisme n'est aujourd'hui que d'un côté. Vous l'avez dit, oui ou non?
Ah non, j'ai pas dit que l'antisémitisme n'était que d'un côté. Ah non, voilà. Non, absolument
pas. Vous avez
pas.
Dit la question de l'antisémitisme.
Vous savez, la bêtise humaine, la j'ai violence, été...
eh bien, comment dire, coup, c'est pourquoi
la haine peut
question.
Venir de partout, c'est pas le sujet.
Il parle de la question de qui aujourd'hui détient le pouvoir, et ils mettent trois images, Academia Christiania, Patrick Drahi, Georges Soros et Jacques Attali dans l'image dans laquelle il tient la marionnette.
Oui, d'accord, mais je ne sais même pas de quoi vous me parlez, excusez-moi, mais vous me parlez d'un truc qui est absolument dérisoire. Il y a un enfant qui...
Vous redites le mot dérisoire, franchement, vous exagérez.
Oui, mais excusez-moi, vous me...
Vous avez parlé quand même des morts qui ont été, excusez-moi, comme si c'était une statistique dérisoire.
Apolline de Malherbe, je suis désolée de vous dire,
mais en fait, je comprends pas.
En fait, j'arrive... Moi, je suis à côté dimanche des amis d'un jeune homme qui a été tué, et j'arrive ce matin chez vous, et en fait, je suis interrogée sur un poste d'une association que je connais de loin et
en fait,
même de
frappe,
fait,
ce qui m'allait
me faire commenter le fait comme s'il y avait une ambiguïté de mon côté, en fait. Excusez-moi. En fait, c'est pas moi qui suis sur le banc des accusés aujourd'hui. Hein.
Pas du tout.
Moi, j'ai un casier judiciaire.
Mais à partir du moment,
j'ai jamais appelé à la violence,
Marion Maréchal, voilà, où vous dites que les morts qui sont tombés sous le coup de militants de l'ultra droite, c'est dérisoire.
Non, Madame Apolline de Malherbe. Moi, j'ai dit qu'il y avait une réalité statistique. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Évidemment qu'un mort est un mort et que c'est dramatique. Voilà. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'essayer de faire une équivalence entre la menace que représenteraient des groupuscules d'ultra-droite dans notre pays et la violence d'extrême-gauche, je vous le dis, on peut ne pas être d'accord, Apolline de Malherbe. Moi, je considère que c'est un mensonge.
On n'aura pas le temps ce matin,
mais puisqu'on en est à ce truc-là, j'aurais dû venir avec la liste de toutes les agressions de l'extrême-gauche cette année. Je vous garantis que vous auriez pas pu mettre en face l'équivalent en termes de violence d'extrême droite.
Voilà. On fera le travail. Merci Marion Maréchal d'avoir répondu à mes questions. Députée européenne, présidente d'Identité, Liberté et auteur de Si tu te sens Le Pen. Il est 8h40 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, Marion Maréchal était mon invité. Éric Zemmour tenait à lui dire un mot.
Oh, Apolline, c'était chaud. Hein. Oh, je l'ai écouté avec Marion. Mais elle a raison, Marion. Elle a du caractère. La violence d'extrême droite, c'est vrai que la violence d'extrême droite, hein, c'est une violence plus sympa, plus douce. Hein. C'est une violence croquant gourmand, voilà. Hein. Après, je la connais bien, là, Marion. On a une histoire ensemble. Hein. Tout allait bien, puis un beau jour, je suis rentré au siège du parti et plus personne. Voilà. Non, le plus dur dans une séparation, c'est pas la séparation en elle-même, c'est de savoir pour qui on vous quitte. Hein. Jordan. Bon, pardon, j'y reviens. Hein. Mais franchement, qu'est-ce qu'il a plus que moi, hein? Je veux dire, à part la jeunesse, les électeurs, la popularité, les abdos et les militants. Mais je vois pas.
C'est sûr, c'est incompréhensible, monsieur Zemmour. Un mot sur la visite du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, en Algérie.
Ben voilà, voilà. On paye notre ministre d'Intérieur pour faire quoi ? Du tourisme. Hein. Alors pardon, pour voir des Algériens, il n'y a pas besoin d'aller à Alger. Hein, il suffit d'aller à Argenteuil.
Alors c'est plutôt bon signe quand même de voir que les relations entre nos deux pays se réchauffent. La libération de Boualem Sansal a été un premier pas intéressant. Laurent Nunez veut persister peut-être dans cette voie.
Oui, ils ont libéré Boualem Sansal. Hein. Maintenant, c'est à nous de remercier l'Algérie. Pardon, avec un geste fort, hein. Par exemple, je sais pas moi, en leur envoyant 1 million d'Algériens chez eux. Hein. On peut même aller jusqu'à 2 millions hein, pour leur montrer à quel point on est sensible à leurs gestes.
Merci Eric Zemmour. Tout de suite, on retrouve Marc-Olivier Fogiel pour les titres de l'actualité. Bonjour Marco.
Bonjour Apolline. Bonjour. Je connais ce sourire, Apolline. Quel beau sourire, que de souvenirs. Mais oui, j'étais patron de BFM, oui. Donc c'est moi qui, dès le départ, ai cru en Apolline. Ah. Hein. Et Apolline, elle lâche pas. Elle va au bout d'une question, elle va au bout d'une question. Elle était formée comme ça. C'est Col Fogiel. Hein. Ben comme le grand-père de Marion qui croyait beaucoup en elle. D'ailleurs, Apolline est en train d'écrire un livre qui s'appelle Si tu te sens Fogiel.
C'est mon nom de famille.
Exactement. Oh, allez, c'est parti pour les titres. Affaire Epstein, les éditions Gallimard suspendent la publication d'un livre de Jack Lang intitulé Ma vie avec Mitterrand. L'éditeur lui suggère un titre plus vendeur, Ma vie avec Epstein. Et puis, Jeux Olympiques, la France a égalé son nombre record de médailles grâce au biathlète Philippe de Villiers. Souhaitait réagir. Écoutez, c'est drôle parce que quand je vois votre tête, vous faites la même bouche que moi. C'est vrai. Je suis content de retrouver votre sourire, Apolline. Je vous ai vu un petit peu tendu tout à l'heure. Écoutez, en tout cas, moi, mon état d'esprit, c'est la consternation. On est foutus. Même dans le mouvement olympique, les wokistes LGBT ont pris le pouvoir. Pour représenter la France, on envoie qui ? Des athlètes bi ? Hein, vous venez de le dire. Non, c'est quoi la suite? Sur le podium, on va demander à remplacer la Marseillaise par du Dalida ou du Ben Farmer. C'est ça la suite?
Non, mais biathlète, ça veut pas dire bisexuel. C'est un pratiquant du biathlon.
Oui, bien sûr. C'est ça. Des hommes en collant fluo qui se courent après avec des bâtons, sortant toutes les 5 minutes le fusil de leur étui. Hein? Vous me prenez pour qui? Non, mais allez raconter vos salades au service des sports des RMC, mais pas moi.
Philippe de Villiers. Ce week-end, Christian Estrosi a dû démentir la rumeur selon laquelle il serait atteint de la maladie de Parkinson. Éric Ciotti, bonjour.
Oui, bonjour Madame de Malherbe.
Oui, vous êtes là.
Je tel que vous me voyez, vous me voyez là.
C'est vrai que vous êtes.
Je
vous
suis
êtes un peu petit,
abasourdi par cette nouvelle.
Attendez, bah il n'a pas la maladie de Parkinson.
Oui, c'est ce que je vous dis. Je suis abasourdi d'apprendre que Christian Estrosi est en parfaite santé. Hein, moi qui étais prêt à lui rendre service, à lui tendre la main, je ne sais pas moi, en le remplaçant à la mairie de Nice pour qu'il puisse partir dans un service d'urgence en soins palliatifs. Ah. Voilà. Mais voilà, vous me le confirmez à l'instant. Ce n'est pas la maladie de Parkinson. Donc apparemment, s'il tremble, c'est uniquement parce qu'il a peur de devoir m'affronter, à l'évidence. À moi. À moins que ce soit dû à la sensation de manque après la cure de désintoxication qu'il a entamée pour se sortir de la cocaïne.
Non, mais arrêtez de raconter des rumeurs de ce type-là.
Vous le jouez bien, ça. Ça vous êtes bien. Comme la fille en colère face à Marion, vous étiez bien aussi. Non, elle est très bonne. Hein, très... Alors, je reprends mon sérieux, car c'est une émission sérieuse. Vous avez tout à fait raison. Je le combats politiquement, mais j'ai du respect pour l'homme. Parce que j'ai des valeurs, ah, Madame de Malherbe. Jamais je ne m'abaisserai. Je suis déjà au plus bas. Jamais je ne m'abaisserai à m'en prendre à une personne souffrant de déficience mentale comme Christian Estrosi.
Non,
c'est vrai, parce qu'on croit que c'est juste un motard nul, incompétent et malhonnête. Non, Christian Estrosi est aussi un homme qui souffre.
Non, mais je suis pas sûr qu'il apprécie ce genre de compassion de votre part.
Bon, écoutez, peu importe. De toute façon, avec son Alzheimer, dans 2 minutes, il aura oublié. Hein.
Non, en tout cas, voilà.
Je souhaite, pour conclure, parce que le sujet est bien long, et je souhaite bon courage à Christian Estrosi pour son opération de la prostate, sa greffe de rein et sa transplantation cardiaque, et qu'il se rassure, jamais je ne mettrai en avant son état de santé fragile pour me faire élire maire de Nice. Non. Son bilan calamiteux me suffit.
Ah oui, vous n'êtes pas comme ça. Merci Eric Ciotti. Pour finir, Alain Marchal nous rejoint pour nous présenter le sommaire des Grandes Gueules. Quel est le programme, Alain ?
Bonjour.
Bonjour Apolline. Aujourd'hui dans les grandes gueules, nous nous poserons la question après les événements de Lyon. Faut-il dissoudre les mouvements politiques les plus violents? Nous en parlerons avec Jean-Pierre qui connaît bien ces groupes de l'intérieur puisqu'il a été militant au sein de l'association Les Jeunes avec Balladur. Nous reviendrons également sur les inondations dans le sud-ouest avec Annie qui connaît bien le sujet puisqu'en 1978 elle avait remporté au camping de Meillan-sur-Garonne le concours de t-shirts mouillés. Et puis, pour parler de la disparition de Robert Duval, ce grand acteur américain, nous serons en duplex depuis les États-Unis à 10h20. Ne loupez pas ce moment, puisque nous serons en ligne avec Christian Colombier, qui vit là-bas, et qui a eu la chance de tourner avec le grand Robert Duval.
Ah oui.
Et pas sur n'importe quel film, sur Apocalypse Now, où il était figurant. Souvenez-vous de cette scène où on le voit très nettement de dos regarder l'hélicoptère de Robert Duval s'envoler. Une scène malheureusement coupée au montage dont il viendra vous parler. Voilà, dans chaque matin, les meilleurs experts sont dans les GG.
Les meilleurs experts, bien sûr. Merci Nicolas, pour 50 loups. Dès demain, 8h50 sur RMC, à tout moment, en podcast. Dans un instant, les GG, quel est le programme le vrai à Olivier Truchot?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent à débattre de l'actualité pendant 3 heures avec autour de la table aujourd'hui l'avocate Sandrine Pégan, Abel Boyi, notre éducateur, et l'entrepreneur Emmanuel Devilliers. On va revenir bien sûr sur la mort du jeune Quentin, l'enquête qui progresse, l'étau qui se resserre sur la jeune garde, ce mouvement ultra-gauche proche d'LFI. Alors justement, quelles conséquences politiques pour les insoumis? On en parlera, on en discutera dans les GG. À tout de suite.